Bonsoir. Le président angolais José Eduardo dos Santos assume depuis hier la présidence tournante de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, Siergel en sigle. Il remplace à ce poste le président ougandais Yoweri Museveni. Cette décision a été prise à Luanda, en Angola, lors du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Siergel. Qu'est-ce que la RDC peut attendre de cette nouvelle présidence de la CIRGEL? Nous en parlons avec professeur Banya Kouwapé, il est professeur des relations internationales à l'Université de Kinshasa. Il est aussi coordonnateur national adjoint de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Bonsoir professeur Banya Kouwapé.
Bonsoir.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, il est député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Bonsoir Maître Juvenal Mounoubo Moubi.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Et professeur Bouendoua Elouga Essi, il est recteur de l'Université libre Julius Nyerere de Bukavu, au Sud-Kivu. Il est aussi directeur du Centre des recherches et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Bonsoir, professeur Bouendoua Elouga Essi.
Bonsoir, chers amis.
Plusieurs réactions, notamment celle de type Bokanga de Kisangani en province orientale, que la RDC n'attende rien de cette passation de pouvoir entre Museveni et Eduardo Santos. C'est le rapport des forces qui compte. Que notre pays réforme plutôt son armée en la dotant des équipements modernes et pouvant lui permettre de mettre hors d'état de nuire toutes les menaces extérieures. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le 5e sommet extraordinaire de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, Siergel en sigle, s'est tenu hier à Luanda, en Angola. Le point principal de cette rencontre des 12 chefs d'État de cette sous-région était le transfert de la présidence tournante de l'organisation qui revient à l'Angola pour 2 ans. Ceci implique que le dossier puisse faire l'objet des remises et reprises à tous les niveaux des structures de la Siergel, notamment les États-majors, les ministères de la Défense et des Affaires étrangères, et enfin de la présidence. On écoute François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord au cadre de paix d'Addis Abeba, joint ce matin depuis Luanda par Innocent Olenga.
L'accent a été mis en ce qui concerne donc cette nouvelle présidence angolaise sur, en ce qui concerne notre pays notamment, le fait qu'après s'être félicité de la manière dont nous en avons terminé avec les dossiers M23, que maintenant l'accent soit mis sur l'éradication, c'est le terme qui est utilisé, de toutes les autres forces négatives, en ce y compris les FDLR et les ADF Nalou. Et le sommet a été très attentif également à la détérioration de la situation dans les autres pays de la CIRGL, à savoir le Sud-Soudan et la RCA. Et d'une manière générale, chacun s'est réengagé à respecter l'accord cadre d'Addis Abeba.
Professeur Banya Kouwapé, je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi coordonnateur national adjoint de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL en sigle. Dos Santos, le président angolais, devient président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et comment vous, d'abord, vous analysez cette décision de la CIRGEL?
Merci beaucoup. Je pense que la première chose qu'il faut retenir, c'est que l'Angola, c'est une puissance régionale. Et de deux, que l'Angola a contribué énormément à la stabilisation de notre pays lors des moments les plus difficiles, particulièrement à partir de la rébellion qui a eu en 1998. Et par la suite, il faut dire que l'Angola a pris des positions de soutien, mais raisonnables aussi dans les cas de conflits qui opposent la RDC avec les forces négatives. C'est donc, je pense, que la présence non seulement de l'Angola comme puissance régionale, mais aussi la correction de ses positions vis-à-vis de dans la situation de la RDC peut nous encourager à avoir un avenir meilleur pour la région des Grands Lacs.
Professeur, vous avez suivi François Mwamba qui dit qu'en ce qui concerne la RDC lors de ces sommets, l'accent a été mis sur l'éradication de toutes les forces négatives, FDLR, ADF, NALU. Il y a des experts, il y a même la société civile du Nord Kivu qui pense que si les pays de la CIRGL s'impliquent effectivement dans la résolution, n'est-ce pas, de la crise au Congo, l'on peut solutionner de manière durable, notamment ces problèmes des ADF NALU, des FDLR.
Je voudrais commencer par une petite correction par rapport, c'est pas tout simplement par rapport à la déclaration de coordonnateur du comité de suivi,
François
Mwamba, mais aussi de la vision globale que la RDC doit avoir. L'accord cadre de Nairobi ou d'Addis Abeba, c'est un complément par rapport à notre pacte. Le pacte de la région qui a été signé par les 11 États, et ce pacte signé, ratifié par tous les États membres, qui stipule dans son chapitre 2, article 5, que les États s'engagent par un protocole sur la non-agression et la défense mutuelle dans la région des Grands Lacs. Je pense que ça, c'est fondamental. Donc, j'ai comme l'impression qu'on a quitté ces fondements, même s'il y a la hiérarchie des normes dans les relations internationales, mais on ne peut pas nier un pacte, un traité ratifié pour privilégier un autre accord qui n'est pas un engagement ratifié. Le Parlement n'a jamais vu cet accord. Il n'a jamais été soumis. Donc c'est là la faiblesse de notre démarche. C'est la faiblesse de notre démarche. C'est-à-dire que nous avons quitté, quelle que soit la hiérarchie, que ce soit l'accord cadre d'Addis Abeba, que ce soit la résolution 2098, on devrait fondamentalement faire allusion comme acte fondateur de notre organisation. On devrait faire appel fondamentalement au pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands.
Alors, cela voudrait dire que le pacte de non-agression a beaucoup plus de valeurs juridiques que l'accord cadre d'Addis Abeba.
Mais juridiquement, non. Mais parlons des normes. Mais dans le fond, la résolution nous a aidés en ce qui nous a apporté cette force d'intervention qui, en quelque sorte, était
la résolution 2098.
Donc, c'est quelque chose de très positif. Mais cela ne pouvait pas permettre à ce que le Rwanda, qui a bénéficié de cet accord, de ce protocole, puisque, vous vous souvenez, les forces rwandaises sont venues ici, et que vous avez suivi même tous les débats qui a été autour. Les forces rwandaises sont venues, ils ont combattu l'affaire RDC comme l'Ouganda sont venus, ils ont combattu le. Donc moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut quitter un pacte, un traité pour aller dans un accord cadre.
Oui, professeur, qu'est-ce que la RDC peut attendre de la présidence de José Eduardo dos Santos? En d'autres mots, qu'est-ce que c'est passation de pouvoir peut impliquer sur la sécurité dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement en RDC.
Il faut retenir tout simplement que le Congo et la RDC, donc le FARDC, ainsi que les autres forces qui nous ont aidés depuis, il y a une alliance géostratégique fondamentale qui existe et qui a pour socle la SADC. Donc, nous pensons que lorsque nous nous trouvons avec un président qui fait partie de notre organisation régionale, c'est déjà un avantage. Le deuxième avantage, c'est que nous avons une frontière longue de 2000 km. C'est pas une frontière comme nous avons avec le Rwanda. C'est une longue frontière, pratiquement de 2000 km. Donc, nous avons intérêt à ce que quelqu'un qui connaît nos problèmes de sécurité puisse s'impliquer et trouver des solutions lorsque d'autres frontières que partage le Congo sont menacés. Voilà, ce sont les deux et puis le trois éléments qui est tout simplement économique, avec le Rwanda qui est un pays réellement qui se donne dans l'émergence. Nous avons tout intérêt à le voir soutenir et nous soutenir pour qu'il y ait une avancée de développement dans la région des Grands Lacs.
Nous avons Robert Kambandani de Bukavu, Sud Kivu, qui dit que ce changement à la tête de la CIRGL ne va rien apporter parce que cette communauté n'a jamais condamné ou imposé des sanctions contre les pays qui troublent la quiétude en RDC. Oui. Oui, ça c'est Robert Kambadani, oui, mais qui dit ce changement à la tête de la CIRGL ne va rien apporter parce que cette communauté n'a jamais, donc la CIRGL, n'a jamais ni condamné ni imposé des sanctions contre les pays qui troublent la quiétude en RDC.
Mais il faut noter tout simplement que pour cette fois-ci, les sommets, les thèmes centrales des sommets, c'était la promotion de la paix, c'est-à-dire la sécurité, la stabilité, le développement de la région de Grand Lac. C'est-à-dire, c'est pour une première fois qu'on revient au fondamental dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le pacte. Et nous ne pouvons pas. Donc maintenant là que nous avons, nous revenons sur les acquis fondamentaux de notre organisation, je pense que ça peut avancer. Et je crois que ça va avancer.
Maître Juvenal Lemounoubo Moubi, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Comment vous, d'abord, vous analysez la décision de la CIRGL de pouvoir, investir le président Dos Santos comme nouveau président de la CIRGL?
Tout en saluant les professeurs Banyaku ainsi que le professeur Bouendoua, je voudrais dire que c'est une bonne nouvelle, l'avènement d'Eduardo Dos Santos à la tête de la CIRGL, la présidence angolaise de la CIRGL. Pour nous, la manière dont nous l'accueillons au niveau de l'Union pour la Nation Congolaise, c'est une bonne nouvelle qui rassure. Et je vais le démontrer sous trois points. Le premier point, et là le professeur Banyaku a touché un peu, c'est le rôle positif qu'a joué l'Angola dans le passé. Il a évoqué la contribution de l'Angola pour pratiquement sauver la capitale, Kinshasa, qui était menacée par les RCD. Il y a l'accord de Lusaka. Il ne faut pas oublier aussi que c'est à Luanda où le président Kabila s'est réuni avec le président Museveni, avec comme objectif le retrait des troupes ougandaises du territoire congolais. Et donc, c'est un rôle positif. Ça, c'est une première considération, raison pour laquelle nous présumons l'Angola de bonne foi. Une deuxième raison, c'est que dans l'histoire entre le Congo et l'Angola, ce n'est pas une histoire marquée par beaucoup de conflictualités. Parce qu'il faut dire la vérité que ce n'est pas pareil pour certains pays de la région.
Donc nous avons toujours entretenu des bons rapports.
Oui, mais c'est vrai que tout n'a jamais été rose, il faut quand même le souligner, surtout lorsque on voit tout récemment les refoulements des Congolais qui vivent en Angola. Et ça, ça devrait interpeller non seulement les autorités du Congo, mais également les autorités de la sous-région. Pourquoi? Parce que ces refoulements, pourquoi il y a des Congolais là-bas, parfois en situation irrégulière? Parce qu'il y a des problèmes ici. La pauvreté, peut-être l'instabilité, etc. Mais la manière pour l'Angola de les traiter aussi, ça n'a toujours pas été apprécié. Donc il ne faut pas refouler les gens de la manière dont on l'a fait en Angola. Donc voilà. Il y a eu parfois, il y a ces cas-là, des Congolais qui vivent en Angola, les
abus.
Il y a aussi des cas de Kaemba.
Voilà.
Voilà. Mais globalement, ce n'est pas une histoire marquée par beaucoup de conflictualités, ce qui est une note positive. Une autre note positive, c'est ce qu'a souligné le professeur Banyaku. L'Angola peut être considérée comme une nation qui émerge, même si on ne peut pas déjà la considérer comme une puissance. Mais au moins, c'est une nation qui émerge parce qu'il y a des Portugais qui commencent à quitter le Portugal pour vivre en Angola. C'est qu'on a créé en Angola des conditions de vie qui attirent. Et là, ça peut servir d'inspiration. Vous savez, lorsque vous êtes tous dans une organisation sous-régionale, vous pouvez vous inspirer des bonnes pratiques qui existent ailleurs. Et je ne doute pas du leadership du président Eduardo Dos Santos, de façon à assurer aussi la mise en œuvre de l'accord, aider à donner sa contribution, son impulsion pour la mise en œuvre de l'accord au cas d'Addis Abeba. C'est vrai, je suis d'accord avec les professeurs que avant tout il y a le pacte de Nairobi, mais étant donné que la CIRGL participe dans les mécanismes régionaux de suivi, 11+4, il va de soi que Eduardo Dos Santos aura un rôle à jouer pour accélérer l'application de l'accord 4.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, rôle positif que l'Angola a joué quand la RDC était l'objet d'agression de la part de ses voisins, l'accord de Lusaka à Luanda, des bons rapports que la RDC a toujours entretenus avec l'Angola, l'Angola aujourd'hui une nation émergente, voilà. Mais est-ce que c'est tous ces éléments, ces facteurs qui peuvent permettre à la RDC, n'est-ce pas, d'espérer en cette présidence tournante aujourd'hui dirigée par Dos Santos?
Vous savez que le gros, et ça il faut pas oublier, il faut toujours en avoir constamment à l'esprit, le gros c'est sur le plan interne. C'est vrai que prenons l'accord qu'a d'Addis Abeba, il y a des engagements à trois niveaux, sur le plan interne, sur le plan régional et sur le plan international. S'agissant, et là le professeur Banyankou a évoqué cela, la réforme du secteur de sécurité, la première impulsion doit provenir du Congo. C'est au niveau du Congo où on doit finaliser toutes les lois liées à la réforme du secteur de sécurité. On doit mobiliser les moyens financiers pour un plan de réforme. Il faut une vision, comme l'a dit. Quelle est notre vision de la défense? La décentralisation. Donc il ne faut pas attendre que le président Dos Santos nous aide à asseoir la décentralisation. La réforme des finances publiques, le développement. Donc voilà, ce sont les engagements de la RDC, la réconciliation nationale. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui doivent être réalisées à l'interne. Et si je peux m'arrêter à la réconciliation nationale, il faut une vraie cohésion nationale. Les concertations nationales ont peut-être posé les diagnostics de la situation que nous vivons, juste un diagnostic, mais la cohésion, les rapprochements des points de vue au sein de la classe politique, nous pouvons l'avoir que lorsqu'il y a un dialogue franc et sincère, un dialogue politique qui n'exclut personne, un dialogue politique ouvert, comme cela est rappelé maintes fois dans les rapports du secrétaire général des Nations Unies.
Merci, professeur Boendoua Elouga Essi. Je rappelle que vous êtes recteur de l'Université libre Julius Nyerere de Bukavu, Sud Kivu. Vous êtes aussi directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique de Grand Lac. Et vous avez suivi les uns les autres. Est-ce que la RDC a intérêt aujourd'hui à espérer en la présidence de Dos Santos à la CIRGL?
D'abord, je vais d'abord saluer l'honorable général Mounou Mebi et le professeur Banyankou. Merci beaucoup, chers amis. Je vais peut-être aborder l'analyse qui est devant nous en disant tout simplement que le passage de témoin entre Museveni et José Eduardo Dos Santos nous met à une sorte d'analyse de différence. Nous avons là deux profils de posture, nous avons deux aires culturelles qui s'entrebalancent, nous avons deux espaces géographiques, nous avons deux parcours, deux ambitions et j'allais dire deux tissus d'alliance. C'est ainsi que le passage de Museveni à Dos Santos déplace l'axe de la réflexion, de l'analyse et j'allais dire même des considérations de l'ère Swahili à l'ère Congo-Lingala. Je dirais aussi que ce passage même à témoin nous fait focaliser la vue non plus sur Kampala mais sur le Rwanda, mais nous fait quitter l'anglophonie vers la lusophonie presque et nous nous trouvons pratiquement en train de voir que les choses changent, mais ne changent pas si tant que ça parce que réellement l'Afrique de l'Est, les frontières de l'Est, ça recouvre environ 145 millions de personnes aux frontières de deux Kivu, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Alors qu'à l'ouest, où on va focaliser l'intérêt, nous sommes en face du Congo et de l'Angola qui tous les deux nous font grosso modo 25 à 30 millions d'habitants. Grosso modo, la vraie question qui nous reste encore, elle est là, elle est sempiternelle. Comment nous, à l'est de la République démocratique du Congo, nous allons être vus, dévorés pratiquement par nos voisins qui sont des puissants prédateurs, surtout ceux que nous pouvons voir. Et je pense que, étant donné que le regard va se déplacer vers l'ouest, je crains que les gens d'ici ne restent pieds et poings liés dans une soumission idéologique, dans une presque colonisation, même si on ne le dit pas, mais j'utilise des mots qui font peur, mais c'est pour tout simplement dire que l'axe de la réflexion va changer. Et pour le Congo, il faudra peut-être ne pas baisser, le regard, ne pas baisser la garde, comme on dit. Et je pense que José Eduardo Dos Santos est notre ami. C'est quelqu'un qui connaît très bien Kinshasa pour y avoir vécu, ce qui n'était pas Museveni. Nous avons quelqu'un qui dans l'alliance avant entre, comment dirais-je, le choix qu'avait fait le président Mobutu de soutenir Savimbi contre Neto et donc Dos Santos. Nous allons nous retrouver quand même avec des gens qui connaissent bien le Congo, mais qui ont nourri aussi quelques ambitions sur le Congo, rien que sur le point de vue commercial et économique. Mais je pense que, naturellement, c'est beaucoup plus bénéfique de nous retrouver dans ce cas-ci.
Oui, professeur, vous avez évoqué des profils, des aires culturelles, des parcours, les langues. Et vous pensez que le fait d'appartenir à la SADC donne au président Eduardo Santos assez de marge de manœuvre pour solutionner les problèmes de sécurité en RDC?
Je suis assez dubitatif et ça m'a toujours un peu choqué que le Congo soit dans toutes les organisations. Mais le Congo, malheureusement, dans sa configuration, heureusement, il se trouve qu'en fait, dans sa partie orientale, il est très peu peuplé, dans sa partie occidentale, j'allais dire. Alors qu'à l'Est, nous avons, vous savez, autour de deux provinces, nous avons 145 millions de gens. Et la communauté de l'Afrique de l'Est est très, très, très présente ici à l'Est. Et on ne peut pas, comment dirais-je, comparer avec le poids que peut avoir la SADC, même si d'une manière ou d'une autre, avec la Zambie, avec, comment dirais-je, la Namibie et l'Afrique du Sud, c'est très important. Mais n'oublions quand même pas que à l'est de la République démocratique du Congo, sur l'axe qui va peut-être du Sakania jusqu'à la frontière du Sud-Soudan, nous nous retrouvons quand même dans des zones assez risquées, où si on baisse la garde, nous allons nous retrouver avec des problèmes. Mais bon, ben, naturellement que le président Eduardo dos Santos, qui est là depuis 1979, n'oublions pas, a de l'expérience, a de l'étoffe, a un regard qui est beaucoup plus bienveillant et ça nous a aidé dans beaucoup de situations. Mais n'empêche que nous, les prédateurs qui sont là, veillent bien et qu'une fois que l'axe du regard de la répétition change, je crains qu'ici, beaucoup de petites opérations ne puissent plus appeler le regard et bon, ben, je pense quand même que nous pourrons arriver à sauver ce qui est sauvable, mais nous ne nous distrayons pas.
Oui, professeur, il y a unanimité ici sur le fait que Eduardo dos Santos, c'est l'ami de notre pays. Il a eu à épauler ce pays quand le pays était l'objet de différentes agressions de nos voisins. Et c'est vrai, c'est un ami, mais en politique, on dit que ce qui compte, ce ne sont pas les amitiés, mais plutôt les rapports de force, c'est plutôt les intérêts.
Oui, les intérêts l'emportent sur l'idée de l'amitié. Et en plus, je pense que ce qui doit nous importer, c'est quand même aussi le regard de la Tanzanie. Moi, je reviens de Tanzanie, je peux vous assurer que avoir vu que l'axe Kigali, Kampala, Nairobi se retrouve un peu fragilisé dans cette idée-là de ne plus avoir à décider des questions de la CIRGL comme c'était le cas. Je pense que, étant donné que la Tanzanie, qui était l'allié objectif de Neto et donc de Dos Santos dans l'histoire, se retrouve encore à l'est de la République démocratique du Congo avec des gens beaucoup plus bienveillants, je pense que l'axe Dar es Salaam Kinshasa, donc l'idée au fait de voir le président Jakaya Kikwete et Joseph Kabila, ce que j'appelle les deux Jika, nous pensons quand même que nous arrivons dans une sorte de relation triangulaire beaucoup plus idéologiquement harmonisé plutôt que ce qu'on était avec Museveni, même si nous savons que Museveni lui-même ayant étudié à Dar es Salaam provenait bien un peu de ces gens de la lignée de Nyerere.
Merci, professeur Banyakou Loapé. Nous allons prendre pour vous cette intervention de Amos Bissimwa qui intervient depuis Bukavu au sud Kivu.
Amos Bissimwa de la ville de Bukavu, province du sud Kivu. C'est une bonne nouvelle pour la RDC étant donné que l'Ouganda qu'elle accusait souvent d'être parée du M23, voire partiel dans les pourparlers dont il était médiateur, vient de passer la commande de la CIRGL à l'Angola. Le gouvernement congolais doit savoir qu'il n'y a pas d'amitié entre États, mais ce sont les intérêts qui comptent. L'important, c'est de devenir un État fort et responsable pour se faire respecter en s'imposant dans la région, sinon la RDC ne cessera jamais de pleurnicher comme un bébé. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on.
Oui, professeur, vous avez suivi, il y a même l'honorable Juvenal Monubo Mobi qui l'a relevé ici. Il y a des efforts qui doivent être faits à l'interne, notamment la réforme de l'armée, redynamiser les processus de la décentralisation. Et vous pensez que si la RDC ne prend pas d'initiative, s'il n'y a pas d'impulsion qui vient de l'interne, de l'intérieur de la RDC, vous pensez que l'Angola va nous aider tout simplement parce que nous avons de beaux yeux, parce que nous sommes un grand pays?
Bon, je pense que ce n'est pas ça le rôle d'un président d'une organisation internationale ou régionale. Son rôle, c'est d'abord un rôle de modérateur, un rôle de stimulateur des orientations. Et là, je pense que chaque fois, nous-mêmes les Africains, c'est par d'habitude, ou particulièrement dans le cas des RDC, c'est quand on parle de la réforme ou des réformes de manière générale, qu'est-ce qui est mis en exergue? Ce sont des compétences. Réformer, c'est mettre une intelligence à une organisation de sorte qu'il y ait efficacité, qu'il y ait effectivité dans ce que vous faites comme fonction. Donc, moi, je pense que les réformes ici-là, qu'on les dise ou qu'on les chante, les fondements, c'est qu'on ne peut pas faire des réformes, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le service de sécurité, que ce soit des réformes économiques, on ne peut pas faire sans y mettre de l'intelligence, de l'expertise. Et c'est ça qui nous manque. Donc, moi, je continue à croire que ce n'est pas du simple volontarisme. On a déjà dépassé cette phase.
Qu'est-ce qui manque à la RDC, c'est l'expertise, pas l'intelligence.
Le deux. Hein, l'intelligence, c'est pas l'intelligence d'individu, mais l'intelligence stratégique. Savoir, comme vient de le dire Bissimoua, savoir que lorsqu'on veut aller dans un, par exemple, dans une organisation, faut savoir quels sont les rapports réels, les rapports d'intérêt. Ça, c'est de un. Comment transformer ces rapports d'intérêt à votre avantage? Ça, c'est de l'intelligence. Et ça, de tout le temps, les Congolais pensent que non, quand on parle de réforme, c'est changer, par exemple, des personnes. Non, il ne s'agit pas de changer des personnes, bien que ça peut apporter bénéfice, mais fondamentalement, c'est se mettre assis, voir qu'est-ce qui va pas dans l'armée. Quels sont fonctionnellement, organiquement et en termes de ressources personnelles, de ressources techniques, et tout, c'est ça. Et ça, il faut s'asseoir et réfléchir. J'ai comme l'impression qu'on ne réfléchit pas suffisamment, mais qu'on s'accroche au mot réforme, ça fait bon, ça fait beau. Mais non, quand vous parlez de rapport de force, rapport d'intérêt, mais il faut savoir quel intérêt stratégique que vous avez.
Voilà, la réforme dont vous parlez, c'est un processus qui est en cours. Vous pensez qu'en amont, ces réflexions n'ont pas été développées?
Je m'excuse beaucoup, j'ai été au secrétariat technique de concertation nationale. Un effort a été fourni, mais j'ose le croire que toujours il y a cette rupture entre la dynamique des compétences et la réalisation politique. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une amorce de l'intelligence, on s'interpose. Voilà. Le comité de suivi, c'est vrai qu'il a été prévu. Mais cela veut dire concrètement sur le travail, des compétences, d'expertise, ça veut dire quoi? Vous allez suivre quelque chose dont vous n'avez pas accédé, ou dont vous n'avez pas les données d'organisation, les données d'évolution. C'est ça un peu la difficulté. Alors là, tout de suite, il y a un blocage. Et vous allez dire que non, ça traîne les réformes. Ça ne traîne pas les réformes, puisqu'il n'y a pas de la compétence.
Professeur, les sommets de la CIRGL coïncident avec le moment où l'on dénonce la reconstitution du M23 en tant que mouvement rebelle. Quels sont les moyens, le pouvoir dont dispose la CIRGL pour tenter de solutionner tant soit peu ce genre de problèmes? Ça, c'est parmi aussi les attentes du peuple congolais.
Oui, je voudrais un peu prendre la réflexion du professeur, non mon collègue, tout à l'heure. J'ai dit que dans cette histoire des M23, si c'est une stratégie à court terme, c'est-à-dire penser qu'avec un peu d'exploitation illégale des ressources de matières premières, les Rwandais peuvent gagner, l'Ouganda peut gagner, j'ai dit que c'est faux, puisque les Rwandais ont le plus grand intérêt, tout comme l'Ouganda, aujourd'hui, c'est de faire ce transfert d'intérêt de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Et par là, nous passons obligatoirement par le Rwanda, nous passons obligatoirement par le Rwanda et les Kenya. Donc, vouloir faire maintenir une tension pour gêner le gouvernement congolais, c'est une courte vue. le Rwanda a tout intérêt à gagner si la dynamique de transfert de l'un des intérêts congolais de l'océan Atlantique vers l'océan Indien, où ça représente actuellement pratiquement 60% du commerce international, nous avons intérêt à y aller. Et donc, il ne faut pas penser qu'en faisant un peu de trouble, en soutenant, en donnant des armes à quelques individus, qu'on va aboutir. Mais non, l'histoire va reprendre, et comme ça vient de se reprendre maintenant, la défaite des M23.
Donc cela veut dire que la politique du Rwanda et de l'Ouganda vis-à-vis de la RDC est quelque peu incohérente, en fait irrationnelle.
Oui, 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 c'est incohérent.
Voilà, Maître Juvenal Mounoubo Moubi, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Goma au Nord Kivu.
Moi, c'est Jean-Dédier Mungwana, à partir de Goma, dans la province du Nord-Kivu. Tous, nous sommes fiers de la présidence de l'Angola, mais le Nord-Kivu fait plus de 20 ans dans la guerre. Est-ce que la même présidence ne causera pas les mêmes effets, même si nous ne le souhaitons pas?
Oui, maître, les gens sont quelque peu sceptiques.
Sceptiques. Je crois qu'il ne faut pas être pessimiste, hein, mais il faut être réaliste, évidemment. De l'Ouganda à l'Angola, de Museveni à Dos Santos, je crois qu'il y a quand même un changement, hein, qu'il faut percevoir. Je crois qu'il faut présumer l'Angola et son président de bonne foi. C'est une présomption de bonne foi, mais il faut être, rester toujours vigilant. Vous savez, en politique, même en diplomatie, il faut toujours rester vigilant. Surtout que vous l'avez bien dit, il n'y a pas d'amitié. C'est pas de l'amitié au sens biblique du terme, ou de l'amour au sens biblique. C'est beaucoup plus les intérêts, ce sont les intérêts qui comptent. Alors, il ne faut pas être pessimiste, plutôt il faut être réaliste, et moi je pense qu'il y a lieu de présumer cette nouvelle présidence doit jouir en tout cas d'une présomption de bonne foi. Mais je crois qu'il y a des actions urgentes que le nouveau président pourrait faire sous son impulsion, son initiative. Étant donné qu'il y a des informations, et pas simplement des informations, il y a des données que M. Martin Kobler a présentées aux Nations Unies sur la continuité du recrutement, c'est quand même sérieux, cela il ne faut pas négliger. Est-ce que la CIRGL ne pourrait-elle pas convoquer une réunion d'urgence sur cette question pour l'analyser en profondeur? Un sommet des chefs d'État et des gouvernements, inscrire à l'ordre du jour cette question et l'analyser de façon urgente. Hein, cette réunion comporterait ça comme un point à l'ordre du jour, mais également échanger sur des voies et moyens pour mettre fin à la menace Adef Nalu ainsi qu'à la menace Maïmaï. Évidemment, il ne faut pas oublier d'autres questions parce que la CIRGL ne concerne pas que le Congo, il y a les conflits en Centrafrique et au Sud-Soudan. Donc, je pense qu'une telle réunion, c'est une action à attendre dans les premiers jours de cette présidence. Je crois aussi qu'il y a lieu de redynamiser le mécanisme conjoint de vérification des frontières, parce qu'on n'a pas compris comment les troupes étrangères étaient signalées plutôt par d'autres sources que par les mécanismes lui-même. Ça, c'était quand même inquiétant, que ce soit des journalistes, agences France-Presse, qui signalent ça. Alors que le mécanisme ou les experts, le groupe d'experts...
La reconstitution du M23.
Oui, oui. Lorsque le M23 était sur le sol congolais, on n'a pas vu vraiment les mécanismes conjoints de vérification jouer pleinement son rôle. Étant donné que les États ne se font pas encore confiance, tout est possible que ce qui s'est passé avec le M23 se répète, raison pour laquelle il faut que ces mécanismes soient clairvoyants et que ces mécanismes jouent pleinement son rôle. Et il appartient au président, en exercice de la CIRGL, de voir dans quelle mesure arriver à la redynamisation du travail de ces mécanismes de suivi. C'est vrai qu'il y a des drones de l'ONU, mais le travail devrait d'abord être fait au niveau de la CIRGL. Voilà deux actions urgentes, à mon avis, qui pourraient marquer un bon démarrage de cette présidence en exercice de la CIRGL.
Honorable, vous semblez faire beaucoup de confiance, n'est-ce pas, au président Eduardo Santos. Est-il différent des autres chefs d'État? Vous savez, on dit que les conflits en RDC est impulsé par des puissances étrangères, ce sont ces puissances-là qui tirent les ficelles. Qu'est-ce que lui va faire là où le président Museveni a échoué?
Tout dépend du rôle que l'un ou l'autre pays a joué. Vous savez, la présence des troupes angolaises sur les sols congolais, c'est là, moi j'en ai jamais entendu dans les rapports d'experts, mais la présence des troupes ougandaises dans les sols congolais, Ça a été dit dans les rapports du groupe d'experts.
Mais vous avez appris les refoulements
dans
des conditions déplorables des Congolais.
Et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. En fait, je voudrais rebondir sur ce que j'ai dit. Nous condamnons cette façon de refouler les gens, même s'ils sont en situation irrégulière. Il ne faut pas les traiter comme on peut emballer des sacs, des haricots, tout ça, les faire traverser la frontière. Donc les Congolais ne sont toujours pas bien traités en Angola et les leaders congolais, ça ne plaît pas aux leaders congolais, ça ne plaît pas à beaucoup de Congolais. Donc il y a des choses qu'il faut reprocher évidemment au gouvernement angolais, notamment cela. Évidemment, ce que nous devons faire, c'est améliorer les conditions de vie ici. Pour que des Angolais quittent l'Angola aussi pour venir vivre à Kinshasa, vivre dans les villes congolaises. Il faut créer des conditions qui attirent ici. Et les pays de la sous-région ont en quelque sorte ce devoir aussi de nous aider. Mais ne perdons pas de vue que la responsabilité, elle est d'abord la nôtre. Pourquoi ? Parce que chacun est artisan de son propre avenir, comme on dit. Il ne faut pas attendre que le voisin soit artisan de votre avenir.
Professeur Bouendo, nous allons prendre cette réaction qui vient de Goma au nord Kivu.
C'est Emmanuel Kambike, je suis de la ville de Goma. Avec cette rotation de la présidence de la RDC peut espérer avoir des interlocuteurs fiables et crédibles, car il était inadmissible d'être à la fois juge et parti comme l'Ouganda, accusé plusieurs fois de soutenir les rebelles qui déstabilisaient l'est de la RDC, avec presque un juge qui jouait les médiateurs. Surtout, l'Ouganda a toujours été un partenaire pour la RDC.
Oui, professeur, votre réaction?
Bon, ma réaction elle est un peu mitigée, en ce sens que moi, croire que l'Angola a toujours été, comment on s'appelle, aux côtés de la RDC, ça dépend. La RDC, notre république, sous Mobutu, on a soutenu Savimbi et beaucoup d'Angolais n'ont pas oublié cela. Il ne faut pas avoir la courte vue. Et puis, nous n'avons pas les mêmes intérêts au niveau de l'axe ou bien de l'axe entre Luanda et Kinshasa. Ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'il peut y avoir d'intérêt direct entre, je veux dire, Goma, Kigali, Kampala, entre Bukavu, Bujumbura, Dar es Salaam. Vous savez, sur cet axe, vivent à côté, sur deux provinces, le Nord Kivu et le Sud Kivu. J'ai plutôt tendance à le rappeler, la politique et l'économie d'une entité, d'un pays, lui est dictée par sa géographie. Et aussi longtemps qu'on ne considère pas la géographie du Congo pour définir sa politique ou son économie, on se retrouve toujours en train de penser l'Angola. L'Angola n'a que 20 millions d'habitants, l'Ouganda en a 35, le Rwanda en a 12, le Burundi en a 10, la Tanzanie en a 50, le Kenya derrière en a 45. Ça nous fait au fait dans un rayon où nous avons 145 millions de gens dont nous constituons au nord et au sud Kivu, de véritables marchés plutôt qu'autre chose. Et dans ce cas-là, c'est à nous de savoir comment nous positionner par rapport à la communauté de l'Afrique de l'Est, mais aussi savoir que par les rotations de cette présidence de la communauté, nous devons savoir comment, à la limite, tirer notre épingle du jeu. Et dans ces conditions-là, je pense que, comme vient de le dire le professeur et l'honorable, je pense qu'il est temps aussi que nous sachions faire des adéquations normales entre ce que nous proclamons et ce que nous faisons. Les fameuses concertations nationales ont eu, il y a plus de 3 mois maintenant, les suites logiques nécessaires et apparemment qui étaient dites urgentes, on ne voit pas l'ombre du début d'une esquisse de réalisation. Et moi, je pense que là-dedans, nos amis qui nous regardent voient combien on soupire dans la léthargie. Et naturellement, si on est incapable d'impulser des politiques beaucoup plus agressives et non pas attentistes, naturellement qu'on sera grugé, qu'on sera mordu, qu'on sera presque entamé par tous nos voisins.
Merci, professeur. Donc, vous dites que l'impulsion doit venir de la RDC. Il y a des efforts qui doivent être faits à l'interne. Mais il y a aussi des problèmes, n'est-ce pas, qui dépassent la RDC, qui vont au-delà de la RDC. C'est comme cette question de la reconstitution du M23 en tant que mouvement rebelle. Pensez-vous que le président Eduardo dos Santos pourrait être en mesure, n'est-ce pas, de faire appliquer l'accord cadre d'Addis Abeba quand on sait que toutes les parties sont réticentes, n'est-ce pas, quant au respect de cet accord cadre?
Je pense que le M23, c'est une sorte de pieuvre. Je pense que bénéficie beaucoup de complicité interne au Nord qui vous subtilise, beaucoup d'intérêt. Bon, moi, j'aimerais bien quand même qu'un jour aussi, nous soyons en mesure de reconnaître que nous-mêmes, ici dans nos provinces, nous ne sommes pas très absents de ce qui se passe assez souvent sans nous, mais assez souvent avec nous. La renaissance de M23 peut être aussi la traduction d'un malaise profond qui est politique, qui est économique, qui est culturel, qu'on n'arrive pas à juguler, parce que tout simplement, depuis maintenant 15-16 ans, depuis l'avènement de l'Ardel, on a cru qu'on allait résoudre des questions auxquelles on ne s'est jamais attaqué. Donc, grosso modo, je pense que en raison des forces centrifuges et des réalités centripètes, nous devrons nous mettre un tout petit peu à balayer devant notre propre porte, à savoir ce que nous voulons, si nous voulons avoir des complicités qui nous dérangent et qui nous empêchent de dormir. Nous pouvons le dire, mais en même temps, quand même, je pense pas que tout le mal vienne toujours de l'étranger, de nos voisins, mais aussi de nous-mêmes, parce que tout simplement, nous faisons des calculs un peu cynique et un peu macabre.
Merci, professeur Bouendoua. Professeur Banyakou Lwapé, vous avez suivi honorable Juvenal Mounoubou-Moubi qui pense qu'il faut un sommet urgent de la CIRGL sur les cas M23.
Oui, moi je voudrais, tout en les soutenant, mais je voudrais insister, puisque de tout temps j'entends cette histoire d'accord cadre, je m'époumonne depuis bientôt 6 mois, pour dire que je ne veux pas dire le terme, mais comment vous quittez un protocole, un traité, ratifié par les États, qui est passé au Parlement, ratifié par les chefs de l'État, et vous allez soumettre ce pacte à un accord cadre, c'est-à-dire qui ne signifie qu'engagement. Moi, je fais les relations internationales. Quand on parle d'un accord cadre, comme il est stipulé, c'était tout simplement pour projeter à l'avance situation.
Mais c'est des engagements qui ont été pris à travers cet accord, oui. Et ces engagements-là doivent être respectés par les différentes parties.
Respectés conséquemment, puisque qu'est-ce dit le traité ? Le traité dit ceci, que les États s'engagent, le protocole sur la non-agression, que les États s'engagent à coopérer à tous les niveaux en vue du désarmement, du démantèlement de tous les groupes rebelles armée existant ou à promouvoir une gestion participative conjointe dans la sécurité étatique et humaine. Cela veut dire tout simplement, cela veut dire que nous, les FDRL ici, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, tous les États membres doivent combattre lorsqu'il y a émergence des M23. Ou bien lorsque... Donc, ce n'est pas dans l'accord cadre qu'il faut aller chercher.
Mais
je ne me fais pas comprendre.
Professeur, comment entrevoyez-vous l'avenir de la sous-région des Grands Lacs pendant la présidence tournante d'Eduardo do Santos? Ça sera sous votre conclusion.
Je vais me rejoindre à l'idée de l'honorable Mounoubou. Ce qu'il faut, maintenant là, partir de ce qu'on peut appeler des sommets fonctionnels. Quitter les sommets structurels où on va pour... Maintenant, il faut aller dans les sommets structurels fonctionnels. Sommet fonctionnel, ça dit, nous avons, comme il a soulevé, les mécanismes conjoints de vérification. Nous avons des protocoles qui ont été ratifiés, s'il vous plaît, qu'il faut maintenant mettre sur la table. Il ne s'agit pas seulement le protocole pour la défense mutuelle, il s'agit du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie, c'est du protocole sur la coopération judiciaire, il s'agit du protocole sur l'exploitation légale, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'il faut maintenant remettre sur table pour savoir qu'est-ce qu'on fait de notre organisation.
Maître Général Mounoubou-Moubi, comment vous entrevoyez l'avenir de la sous-région des Grands Lacs pendant cette présidence tournante d'Eduardo Santos? Le professeur Banyakou parle des sommets fonctionnels sur lesquels nous devons mettre un accent.
Les dirigeants de la sous-région, les leaders politiques de la sous-région devraient lire et relire le pacte de Nairobi. Donc le pacte sur la paix, la stabilité, le développement. Je sais que lire n'est pas suffisant. Appliquer ce qui est écrit, c'est différent de lire simplement un texte. Mais lorsqu'on lit les préambules de ces documents, et si l'on est animé de bonne foi, on peut apporter sa contribution à la paix. Il est dit, par exemple, quelque part, c'est dans le préambule, aucun pays ne doit utiliser son territoire comme base pour l'agression ou la subversion contre un autre État membre. Si tout le monde intériorise ça, eh bien, la paix, c'est bientôt. Je vais vous lire un autre passage. il y a la nécessité d'une volonté politique effective et soutenue de chercher conjointement les solutions pacifiques à nos différends.
Merci, professeur Boendoua Elugaïssi. Comment vous entrevoyez l'avenir de la sous-région pendant cette présidence des deux Saint-Ochiens?
J'aimerais bien que pendant la présidence d'Eduardo dos Santos, on puisse activer un véritable lien, une véritable communauté, à la limite qui remplacerait toutes les autres, une communauté qu'on pourrait appeler comme ça. Je suis encore en train de schématiser, le professeur Bagnacou va me taper sur les doigts, mais une communauté du Congo et de la Tanzanie.
Merci, nous avons compris, professeur.
Grosso modo, avoir une sorte
merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique et à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Alain Irung, Kéline Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bon suivi du programme sur Radio 4.